This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
L'affaire Nolibé, le calvaire d'un père, épisode 1. Que feriez-vous si vous étiez accusé du pire, considéré comme coupable d'un crime sans pouvoir vous défendre? L'histoire de Claude Nolibé est de celle-ci. Un cauchemar. Le cauchemar d'un père qui a duré plus de 10 années. Un soir de juillet 1991, la vie de cet homme bascule. Devant sa maison, Caroline, sa fille de 18 ans, couverte de sang, gît au pied du portail. Touchée au cœur, elle s'éteint dans les bras de son père, impuissant. Claude est le seul témoin. Autour de la scène de crime, aucun indice. À Clairac, petit village du Lot-et-Garonne, personne n'a rien vu ni rien entendu. Pour ce père de famille, c'est le début d'un véritable chemin de croix. Dans cette affaire, il a tout perdu. Sa fille, son travail, ses amis, sa liberté et son honneur. Le meurtre de Caroline aurait pu ne jamais être élucidé. Le dossier Nolibé aurait pu rester dans le fond d'un placard, d'un tribunal et rejoindre les nombreux cold cases que compte la justice. Mais pour Claude Nolibé, au nom de sa fille, il fallait que la vérité éclate. Dans cette série consacrée au mystérieux assassinat de Caroline Nolibé, je vais vous raconter l'histoire d'un père, victime désignée coupable, dans une enquête bâclée. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Fin juillet 1991. Dans le village de Clairac, petite bourgade de 2500 âmes près d'Agen, tout est calme. C'est la fin de la journée, le soleil se couche doucement, colorant le ciel d'un beau rouge orangé. Dans les petites ruelles bordées par le Lot, les volets des maisons se ferment, les uns après les autres. Il est presque 23h quand Séverin Stédil sursaute. On sonne à sa porte. À cette heure-ci, c'est Claude, le voisin d'en face. Il est torse nu, les mains couvertes de sang, l'air complètement paniqué. « Je crois qu'on a tué ma fille », dit-il. Séverin sort à toute vitesse de chez lui, traverse la route. Derrière le portail de Claude, il aperçoit au sol une masse sombre. C'est Caroline, avec du sang partout. Claude, hagard, se jette sur elle, lui parle, mais la jeune fille ne respire plus. Séverin retourne à son domicile et appelle le médecin du village. Ce dernier arrive sur place quelques minutes plus tard et ne peut que constater le décès de Caroline d'une mort violente. Une demi-heure plus tard, la gendarmerie est là, prévenue par le médecin. Le corps de la jeune femme est sur le dos. Son père affirme qu'il l'a retournée lui-même. Elle était accrochée comme pendue au portail. Il a essayé de la sauver. Autour d'elle, une mare de sang et un parapluie. Caroline est habillée et semble avoir été poignardée au niveau du cœur. Aucun couteau, aucune trace de lutte. Elle est comme posée là, après une attaque éclair. Les gendarmes font un tour du jardin, puis se dirigent vers la maison de Claude. Sur la porte, côté extérieur, un trousseau de clés avec un petit cœur rouge. Les clés de Caroline ? La jeune femme a-t-elle été agressée au moment où elle rentrait chez elle ? À l'intérieur de la maison, aucune trace de bagarre, mais de nombreuses traces de sang. Il y en a partout, sur le sol, le téléphone, l'interrupteur, sur une table et sur le volet de la cuisine à hauteur d'homme. Qui a fait cette trace ? Caroline ou bien son agresseur ? Des traces de pas et des mégots sont relevés dans le jardin. C'est tout ce qu'il y a. C'est peu pour une enquête. Il n'y a quasiment rien à tirer de la scène de crime. Mais une chose intrigue les gendarmes. Le père de la victime, Claude Nolibé, la cinquantaine, couvert de sang sous le choc, il peine à parler et ses explications sont confuses. Il raconte dans le documentaire Affaires classées diffusé sur France 3 en septembre 2009.
Ce soir-là, j'étais parti après mon travail, je suis parti faire un tour à la pêche. Ma fille aime bien le poisson. Et je suis parti à la pêche, j'ai pris mes outils de pêche, tout ça. Et je suis revenu à la maison, j'étais vers 8h moins le quart, alors je ne me rappelle pas juste de l'heure. Et à l'arrivée à la maison, ma fille n'était pas là. Alors j'ai rangé mes affaires et je me suis mis à souper le soir. Alors ma fille n'était pas rentrée et j'ai laissé son couvert. Et j'ai regardé l'émission, il y avait Interville ce jour-là. Comme ça m'intéressait pas tellement, je suis allé me mettre au lit. Je me couchais, je m'étais assoupi et tout à coup je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'ai entendu un râlement et ça venait vers le portail, le râlement. Alors, je ne pouvais rien voir vu qu'il faisait très très noir. Alors vite j'ai descendu en bas, je suis allé à la salle de bain, j'ai mis mon pantalon, j'ai allumé toutes les lumières, la cuisine, le couloir, j'ai allumé la galerie dehors et quand j'ai ouvert la porte de dehors, ce que je vois le long du portail, c'était ma fille.
Caroline, inerte, respire encore. Claude place sa fille sur le dos, lui parle, la serre dans ses bras. Il essaye ensuite d'appeler les secours, mais dans la panique, il n'arrive pas à utiliser son téléphone. Puis, il se précipite chez son voisin Séverin pour demander de l'aide. Quand il revient auprès de Caroline, elle est déjà morte. Claude Nolibé est donc le premier, mais surtout le seul témoin de la mort de sa fille. Escorté par la brigade de Clairac, il est embarqué pour une audition. Claude Nolibé a 52 ans. Né à Clairac en 1939, il n'a jamais quitté son village. Cariste dans une usine de la région, il mène une existence paisible. Depuis un an et demi, il est séparé de sa femme Christiane, la mère de ses trois enfants, deux garçons et Caroline. Elle l'a quitté pour un autre homme, sans heurts particuliers. Après le divorce, prononcé 15 jours plus tôt, Claude a gardé la maison dans laquelle il vit avec Caroline. Ses deux fils aînés ont déjà pris leur envol. La cohabitation se passe bien, chacun vit à son rythme. Ce 31 juillet 91, il est rentré chez lui à 21h. Caroline n'était pas là. Rien d'alarmant, la jeune fille est indépendante et passe souvent ses soirées à l'extérieur, avec ses copains du village ou chez sa mère. Et la plupart du temps, elle ne prévient pas son père. Claude est allé se coucher, son réveil indiqué 21h55, il s'est endormi et s'est réveillé vers 23h après avoir entendu des gémissements. Claude répond comme il peut aux nombreuses questions des gendarmes. On lui demande pourquoi les clés de Caroline se trouvent sur la porte. En allant se coucher, il a laissé le trousseau de clés de sa fille à l'extérieur en évidence pour lui permettre de rentrer plus facilement. Autre interrogation des enquêteurs, pourquoi y a-t-il des traces de sang dans la maison ? Claude est incapable de répondre. Il est lui-même couvert de sang. Il a sans doute malencontreusement touché avec ses mains l'interrupteur, le téléphone. Enfin, il bredouille, il ne sait plus. C'est possible, peut-être pas. Et cette histoire de téléphone, pourquoi Claude affirme qu'il n'a pas réussi à l'utiliser alors que le médecin n'a eu aucune difficulté à s'en servir pour appeler les gendarmes ? Il ne sait pas. Le portable est verrouillé par un cadenas pour empêcher Caroline de passer trop d'appels. Dans la panique, Claude n'a tout simplement pas réussi à utiliser son téléphone. Le père de Caroline est auditionné jusqu'à 4h du matin, puis relâché. Entre-temps, le corps de la jeune fille a été amené à l'hôpital Saint-Esprit à Agen en vue d'une autopsie. Les déclarations de Claude n'ont ouvert aucune piste concrète. Mais les gendarmes ont déjà leur petite idée, cet homme leur cache quelque chose. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Au matin du 1er août, la nouvelle a déjà fait le tour du petit village tranquille. quelqu'un s'en est pris violemment à Caroline. Elle a été assassinée devant chez eux. Un coup violent à la poitrine, sans doute un couteau. Cette nuit-là, dans le village, personne ne s'est rendu compte de rien. Pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer, les gendarmes retracent la dernière journée de la jeune fille. Comme tous les matins, à 5 heures, elle est allée travailler à l'usine de conditionnement d'haricots verts. Caroline a terminé sa journée à midi et rentrée préparer le déjeuner pour elle et son père. Elle a ensuite passé l'après-midi chez elle avant de ressortir vers 19 heures. Caroline a retrouvé son ami et collègue Albert, chez qui elle a dîné. Vers 21h30, Albert a déposé Caroline en mobylette chez sa mère. Lui est allé travailler de nuit à l'usine. La mère, la fille et le nouveau compagnon ont passé une heure ensemble. Caroline devait récupérer une tente en vue d'un week-end entre copains près de Biscarrosse. Puis, elle est rentrée chez son père vers 22h30. Elle a refusé que sa mère la dépose en voiture. Un peu plus d'un kilomètre sépare la maison de Christiane, la mère, et la maison de Claude, le père. 10 minutes de marche que Caroline a l'habitude de faire. Elle a traversé le pont de Clairac, allongé les berges du quai Bourbon. Elle est arrivée au niveau de chez son père et vers 23h, c'est à ce moment qu'elle a été retrouvée agonisante. Personne ne l'a croisée en chemin. Christiane, la mère de Caroline, est la dernière personne à l'avoir vue vivante. L'agression s'est produite dans un laps de temps court, entre 22h30 et 22h50, et sur une zone réduite, à peu près 1 km. Le lendemain des faits, les gendarmes interrogent les voisins d'Enolibé. Au début du mois d'août, beaucoup sont en vacances. Caroline a sans doute été suivie ou attendue par son agresseur. Dans ce cas, quelqu'un a dû voir ou entendre quelque chose. Clairac, c'est pas bien grand. La zone d'habitation de Caroline, le quartier de Longueville est résidentiel. Mais non, personne n'a rien remarqué d'anormal. L'agresseur de Caroline devait certainement bien connaître les lieux pour n'éveiller aucun soupçon. Autre hypothèse, puisque les clés de la jeune fille sont sur la porte, elle a peut-être été victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Mais cette piste est vite écartée, rien ne manque à l'intérieur du domicile. À ce stade de l'enquête, sans indice, sans empreinte et sans arme du crime, les gendarmes n'ont qu'un suspect, Claude Nolibé. Claude est le premier témoin de la scène et certaines de ses réponses lors de son audition posent question. D'abord les clés. Il affirme avoir mis le trousseau de Caroline dans la serrure pour que sa fille rentre plus facilement. Mais Christiane, la mère, affirme de son côté que Caroline avait ses clés avec elle. Un autre témoignage accable le père de famille. Valérie, la meilleure amie de Caroline, est passée le soir du meurtre vers 21h devant chez Claude. Elle a bien vu un trousseau de clés sur la serrure extérieure de la porte et, elle en est sûre, ce n'était pas celui de son amie. Et puis, Claude semble aussi avoir menti sur l'heure de son coucher. Il dit avoir rejoint son lit à 21h55, mais un voisin assure avoir vu de la lumière dans la chambre de Claude à 22h30. Contrairement à ce qu'il déclare, Claude aurait donc été éveillé au moment du crime. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'éléments troublants pour les gendarmes. Donc pour les enquêteurs, voici le scénario qui se dessine. Caroline est arrivée chez elle, elle a ouvert la porte avec ses clés et dans la maison, elle a reçu un coup de couteau dans la poitrine. Elle a voulu fuir et s'est effondrée près du portail. Ce qui expliquerait pourquoi les gendarmes ont trouvé des traces de sang à l'intérieur et les clés de Caroline sur la porte. Et une fois de plus, la seule personne dans la maison ce soir-là, eh bien c'était son père, Claude Nolibé. Pour les enquêteurs, il est donc le coupable idéal. Tout mène à lui. Dans le village, les rumeurs et les suspicions vont bon train. Claude aurait eu une relation incestueuse avec sa fille. Claude était un père jaloux. Caroline était une fille volage, peu recommandable. Alors, Claude aurait-il pu s'en prendre à sa propre fille? C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette série consacrée à l'affaire Nolibé. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.